Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine sur Radio JDK Strasbourg. Aujourd'hui, émission spéciale, puisque l'émission sera consacrée grandement à la fête de Rosh Hashanah qui se débutera dimanche soir. À mes côtés, Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Excellent, merci.
Alors, on va quand même souhaiter, on va d'abord parler de la paracha de la semaine. La paracha, c'est Nitzavim. L'entrée de ce Shabbat, ce soir, ce sera entre 18h09 et 19h11. Et samedi soir, la fin du Shabbat, 20h07. Évidemment, les horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. On parlera des horaires de Rosh Hashanah tout à l'heure. Comme chaque fois, on souhaite nos voeux de Rofua Shelema à tous nos malades et évidemment un Shabbat Shalom spécial pour nos aînés et pour toutes les personnes isolées. On est d'accord, on est d'accord sur ce message qu'on a l'habitude de donner et qui nous fait plaisir. Monsieur le grand rabbin, on va parler d'abord de l'actualité de la semaine.
Avec grand plaisir.
Un très grand concert, un très beau concert la semaine dernière à la grande synagogue de Moshe Steinmetz. Je voudrais que vous nous redisiez plus rapidement ce que vous avez voulu dire pendant la pause. Vous avez dit que vous étiez fier de notre communauté.
Oui, j'étais fier de notre communauté. Je suis fier de notre communauté. Ce n'est pas une phrase qui se conjugue au passé. C'est une phrase qui se conjugue au présent. C'est une phrase qui se conjugue au futur. Je n'ai aucun doute que je serai fier de ma communauté dans les prochaines années. La beauté de ce concert, qui a vraiment, dont la réussite a largement dépassé nos attentes. On s'attendait à un très beau moment, mais là, la réussite, l'affluence, la manière dont le concert s'est déroulé, parce qu'un concert, c'est beaucoup d'organisation, des heures et des heures d'organisation. Ce sont plusieurs personnes qui travaillent sur la partie technique, sur la partie artistique, pour
alors,
régler les moindres détails.
J'étais à ce concert, pour vous dire la vérité, que c'était plein, aussi bien en bas qu'en haut.
Donc voilà, tout à fait. Donc remplir la grande synagogue, donc qui est un lieu quand même très très symbolique, autour d'un moment qui est un moment de réjouissance. C'est ça ce qu'il faut quand même le souligner. On n'était pas dans le cadre ici d'un espèce d'une oraison funèbre. C'est un moment qui était un moment à la fois, je dirais, de réjouissance, mais surtout un moment aussi de. C'était un moment d'émotion, puisque le premier soir des Slichot, le lancement des Slichot, c'est un moment de préparation en fait de Rosh Hashanah, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte que les chants interprétés par Moti Steinmetz tourne autour du thème de Rosh Hashanah, avec donc beaucoup de chants de Rosh Hashanah, des airs de Rosh Hashanah, des airs que l'on appelle des airs lents et des airs plus mélancoliques, et d'autres airs plus joyeux. Et la manière dont le public a communié, a réagi, a eu cette capacité à la fin à chanter ensemble et à danser ensemble, et surtout de voir des personnes vraiment de tout âge, je le répète, mais on avait des enfants de 2-3 ans qui assistaient sans doute à leur premier concert, on avait des personnes très âgées, on avait autant d'hommes que de femmes, on avait des gens de toutes les keilotes de Strasbourg, de toutes les communautés, de toutes les synagogues de Strasbourg qui étaient présentes, les voir réunis ensemble autour d'un même événement. Je crois que c'est un grand motif de satisfaction. Et c'est ça finalement l'unité, c'est être capable de se retrouver, être capable de partager des moments en commun, tous ensemble. Si ça doit se faire autour de moments comme celui-ci, bah, c'est très bien, on peut par réunir et intéresser toutes les personnes autour des mêmes événements. Et je rappelle que c'est pour cela que le consistoire tient et a tenu tout au long de l'année 5782 à organiser des événements très divers et variés, aussi bien des événements culturels que des événements de limoude, que des événements sportifs, que des événements à destination de la jeunesse, des plus anciens, de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte. Mais on a besoin, parfois, même si les activités sont organisées pour différents types de publics, on a besoin à certains moments dans l'année de pouvoir se retrouver tous ensemble. Ça a été le cas dimanche soir. Et voilà, ceux qui ne sont pas venus, on va dire de manière volontaire, un petit peu par militantisme, ben, j'ai envie de dire qu'ils ont raté. Non, pas tant pis pour eux, parce que voilà, on n'est pas là pour les provoquer, on est simplement là pour leur dire que c'est dommage qu'ils ont raté un très très grand moment et qu'on les invite à venir au prochain événement de ce type qui sera organisé. Et pour ceux qui étaient là, j'espère qu'ils ont apprécié. En tout cas, nous n'avons eu que des retours positifs et vraiment tant mieux, parce que c'est un concert qui a demandé, encore une fois, je l'ai dit, beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts et une très très lourde organisation. Les gens n'en ont pas conscience, hein. Les gens viennent, ils s'assoient, ils écoutent, ils profitent du spectacle, ils ont bien raison de le faire, mais derrière, voilà, il y a un travail très, très, très fastidieux.
Alors, je disais tout à l'heure, on va lire demain la paracha de Nitzavim. On peut dire un mot sur la paracha, un petit résumé et peut-être un commentaire rapide.
Oui, c'est une paracha très courte et c'est une paracha qui est tout à fait de circonstance, puisque bon, non seulement on la lit chaque année avant Rosh Hashanah, donc nous avons l'habitude de faire le lien entre cette paracha de Nitzavim et la fête de Rosh Hashanah, mais il s'avère que dans notre exégèse, eh bien, la paracha de Nitzavim a déjà été associé à celle de Rosh Hashanah dans les commentaires de nos maîtres. Effectivement, Atem Nitzavim Ayom, hein, cette paracha commence sur ces mots, Atem Nitzavim Ayom, vous vous tenez debout aujourd'hui, Lifne Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu, Rachechem Shiftechem, et donc Moshe rassemble l'ensemble du peuple afin de lui confier ses dernières recommandations, et la Torah donc souligne deux éléments importants. Le premier, c'est que eh bien, le peuple se tient debout à ce moment-là, donc c'est important. Je vais expliquer tout de suite pourquoi est-ce que cet élément est important et en quoi il vient rappeler la journée de Yom Kippour. Et le deuxième élément qui a été important, c'est le fait, et ça fait parfaitement le lien avec ce que je viens de dire en parlant du concert, que tout le peuple est réuni à ce moment-là. Rachechem, Shiftechem, peu importe, les dirigeants, les notables, ceux qui le sont un peu moins, ceux qui ne le sont pas du tout, les gens connus comme des gens inconnus, des gens riches comme des gens moins riches, des personnes âgées comme des personnes plus jeunes, c'est l'ensemble du peuple qui est réuni à ce moment-là, qui se tient devant Moshe Rabbeinu pour écouter les dernières recommandations de son dirigeant. Bien sûr, cela fait écho immédiatement à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, avec la fête de Rosh Hashanah, durant laquelle il n'y a pas de distinction, tout le monde est jugé, il n'y a pas de traitement de faveur pour les plus aisés, il n'y a pas de traitement de faveur pour les puissants. Nous passons tous en jugement devant HaKadosh Baruch Hu, nous avons tous des comptes à lui rendre, nous devons tous prendre des décisions importantes ce jour-là, et donc l'écho est très clair. Je disais que cette posture qui est indiquée par le texte est une posture extrêmement importante, Nitzavim, se tenir debout, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de répéter plusieurs fois, mais c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. L'homme est un bipède, l'animal est un quadrupède. Ce qui différencie l'homme, c'est cette capacité à avoir la tête, donc qui puisse regarder vers l'avant, au moins qui puisse regarder peut-être même vers le ciel, la lever, ce qui n'est pas le cas de l'animal qui, lui, dans sa posture naturelle, a la tête qui regarde vers le bas. Donc l'homme doit avoir des aspirations élevées, hein, il doit conjuguer la matérialité avec la spiritualité, mais faire en sorte que cette matérialité puisse être bercée de spiritualité. Donc c'est un petit peu une invitation ici que l'on fait à l'homme de trouver un équilibre plus juste dans sa vie entre le monde matériel qui l'entoure et le monde spirituel, ce devoir qu'il a de connexion avec le divin, avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est cette posture donc qui nous invite à tout le travail qui doit être le nôtre durant la fête de Rosh Hashanah. Donc vraiment un lien très ténu entre cette parachat Nitzavim et la fête de Rosh Hashanah.
Alors on va justement parler de la fête de Rosh Hashanah. On va d'ailleurs donner tout de suite les horaires pour cette fête. Ce sera donc dimanche soir, le 25 septembre, à l'image des bougies entre 18h06 et 19h07. Et il y aura d'ailleurs le soir même à la Grande Synagogue l'intervention, votre intervention, monsieur le Grand Rabbin, ainsi que celle du président Maurice Dahan. Le 26 septembre, ce sera le premier jour de Rosh Hashanah. Mardi 27 septembre, deuxième jour de Rosh Hashanah. Et la clôture de la fête, ce sera mardi soir à 20h01. Notez que mercredi, ce sera le jeûne de Guédalia. On va donc parler de Rosh Hashanah. Alors, quand on lit la Torah, M. Grand Rabbin, le mois Tishri n'est pas le premier mois de l'année. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui change ou de quoi on parle là ?
Alors effectivement, si on regarde les mois tels qu'ils sont déclinés dans la Torah, on se rendra très rapidement compte que le mois Tishri n'est pas le premier mois de l'année, mais il est le septième mois de l'année. Et la fête de Rosh Hashanah est présentée comme le premier jour du septième mois. Donc très surprenant de célébrer le début de l'année, le premier jour du septième mois. Et vous comprendrez donc qu'il y a là peut-être un petit conflit entre notre célébration et ce qu'en dit le texte de la Torah. Sauf que ce texte de la Torah est complété, on le sait, par un enseignement oral. Et que dans cet enseignement oral, et notamment dans la Mishnah de Rosh Hashanah, on nous parle de quatre débuts d'année. Et parmi ces quatre débuts d'année, il y a le premier Tishri. Il existe par ailleurs une discussion extrêmement intéressante, passionnante, je dirais même toujours dans ce traité de Rosh Hashanah, entre, au Pour ceux qui ont envie d'approfondir un petit peu le sujet, cela se situe Daf Yud Amud Bet. Et dans le traité donc de Rosh Hashanah, cette discussion qui est presque une discussion philosophique entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui sont deux grands maîtres de la Gemara, porte sur la création du monde, la date de la création du monde. Rabbi Eliezer affirme que le monde a été créé en Tishri, tandis que Rabbi Yehoshua, lui, affirme que le monde a été créé en Nissan. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ces deux conceptions, sur cet affrontement de la pensée ici entre ces deux maîtres. Sachant que, a priori, l'homme, effectivement, que la création du monde physique, elle a bien eu lieu au mois de Tishri, la question qui se pose et la position qui est celle de Rabbi Yehoshua, qui lui se situe plutôt par rapport au mois de Nissan, qui, on le sait, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois où l'histoire du peuple d'Israël a commencé, eh bien, c'est de savoir où on doit placer l'accent. Où on doit placer l'accent, où est-ce qu'on place le curseur, et finalement, qu'est-ce que l'homme doit retenir de fondamental dans la place qui est la sienne dans ce monde, dans le rôle qui lui a été attribué dans ce monde, et donc est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la dimension de Nissan, qui elle est sans doute la dimension, on va dire, plus spirituelle de la place de l'homme dans ce monde, tandis que la dimension du mois de Tishri est une dimension beaucoup plus matérielle, beaucoup plus concrète.
Qu'est-ce qu'on a fêté pour l'ancien ? Il y a un événement marquant, c'est la création du monde.
La création de l'homme. Puisque le monde a été créé le 25 Elul, et que Rosh Hashanah, et donc c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette date qui a été retenue pour le Yom Hadin, pour le jour du jugement, c'est la création de l'homme. D'accord. C'est ce jour-là que l'homme a été créé, et puisque l'homme a été créé ce jour-là, eh bien c'est ce jour-là qu'il doit rendre des comptes. Il est normal que le jour que l'on choisisse pour qu'il rende des comptes est le jour où l'homme a été introduit dans la création. Qu'est-ce que tu as fait de ce cadeau qui t'a été attribué ? D'accord. Je rappelle que l'homme, Jean, couronne la création. On pourrait, si on a une lecture un petit peu sommaire de cette création du monde, se dire que bien finalement l'homme n'était pas très important puisqu'il a été créé en dernier. Donc on a jugé utile, Dieu a jugé utile de créer des choses plus importantes. Normalement, on commence par les choses les plus importantes, par les fondations. L'homme n'arrive qu'en dernier. Sauf qu'une deuxième lecture, en réalité, nous montre que l'homme vient pour couronner la création. Dieu a préparé le terrain, en quelque sorte. Il a fait en sorte qu'il y ait un certain nombre d'éléments dont l'homme puisse disposer pour jouer pleinement son rôle, et l'homme arrive un petit peu comme la cerise sur le gâteau, plutôt, je préfère une image qui est plus belle, plutôt comme le diadème ou la couronne que l'on place vraiment en dernier sur la tête du roi ou de la reine, et donc l'homme est le couronnement de la création. Et puisque l'homme est le couronnement de la création, eh bien il se doit d'être à la hauteur de l'enjeu, il se doit d'être à la hauteur de la mission qui lui a été attribuée, et c'est donc ce jour-là que l'on choisit, de manière tout à fait logique, le jour où l'homme a été introduit, pour lui demander des comptes. Qu'as-tu fait depuis le premier jour de la création, depuis que ton ancêtre, Adam Harishon, a été introduit dans ce monde ? Est-ce que tu es à la hauteur de la mission qui t'a été confiée ?
Alors, dans notre tradition, vous l'avez dit, l'Oshana célèbre la nouvelle année, il célèbre également le moment où Dieu va juger les hommes. Je me suis demandé, est-ce que Dieu a vraiment besoin de deux jours pour juger les hommes ? Est-ce qu'il ne peut pas le faire en un coup, on va dire ?
Alors, la question que vous posez, Jean, comme d'habitude, est pertinente, est excellente. Beaucoup. Vous me posez la question par rapport aux deux jours. Vous le savez sans doute, Rosh Hashanah dans la Torah ne dure qu'un jour. C'est-à-dire que la manière dont la Torah nous présente Rosh Hashanah, elle nous le présente comme le premier jour du septième mois. Mmh. Et c'est en réalité pour des raisons techniques qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer, que cette fête-là dure deux jours, y compris, le rappelle, en Israël, ce qui est une grande différence par rapport aux autres fêtes, où le second jour de fête est ce que l'on appelle Yom Tov Shni Shel Galuyot, le second jour de diaspora, n'est pas observé en Eretz Israël. Il s'avère que pour la fête de Rosh Hashanah, étant donné qu'elle tombe au tout début du mois, et donc que la même problématique qui existe ici, pour les autres fêtes en diaspora, eh bien, se pose aussi en Israël pour la fête de Rosh Hashanah, d'où ces deux jours de Rosh Hashanah, que l'on appelle d'ailleurs dans la tradition Yama Arichta, c'est-à-dire un long jour. C'est comme si ces deux jours n'en formaient qu'un seul. Et je reprends un enseignement que j'ai rappelé, que j'ai rapporté à plusieurs reprises ces derniers jours, qui est un enseignement kabbalistique du Zohar, mais assez simple, pour comprendre un petit peu comment introduire cette notion de jugement sur deux jours, sachant que dans la Torah, a priori, priori Dieu ne juge qu'un seul jour, il y a une notion kabbalistique qui nous parle de deux sortes de jugements. Un jugement qu'on appelle le Dina Kashia, qui est un jugement sévère, et un jugement au contraire qui est un jugement de clémence, qu'on appelle Dina Rafia. Et il faudrait comprendre que le premier jour, d'après donc, la tradition kabbalistique, eh bien, Dieu va juger de manière sévère, c'est-à-dire sans y introduire une rahmanout, une miséricorde particulière. L'homme est véritablement jugé par rapport à ses actions de manière extrêmement brute, tandis que le deuxième jour, eh bien, on va donner la possibilité à l'homme d'être jugé de manière plus clémente. Comment ? Au travers de la collectivité, c'est ce que je dis. Lorsque l'homme est tout seul pour se défendre, eh bien forcément, il est plus fragile et il prend le risque de devoir non seulement rendre des comptes, mais surtout de se retrouver en position dans une position qui jouerait en sa défaveur, en tout cas, et qui pourrait le faire condamner. Tandis que lorsque l'homme arrive à s'introduire, à se fondre dans la collectivité, non pas à s'effacer, mais à s'associer aux autres membres de la communauté, pour que ce ne soit plus lui qui soit jugé à titre individuel, mais que cet homme-là soit jugé au travers et au sein de la collectivité, eh bien là, on a un ensemble beaucoup plus fort, un ensemble plus solide, un ensemble plus qualitatif. D'accord. Et c'est ce que l'on appelle le jugement clément. Voilà un petit peu pour comprendre cette notion de jugement.
Et je vais vous demander d'être un peu plus rapide dans les réponses, même si ce que vous dites est extrêmement intéressant, mais le temps nous est compté. On dit donc, toujours dans le texte, que Rosh Hashana décide de tout. La vie, la mort, le par hasard, enfin, tout ce qu'on peut arriver. Il n'y a aucun moyen de fléchir la décision d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets.
Alors, la question que vous posez, c'est sans doute la question c'est la question du libre-arbitre, c'est comment introduire la notion et comment expliquer la notion du libre-arbitre dans un monde...
Non, ce n'est pas le libre-arbitre, c'est est-ce qu'on peut changer un décret ? C'est ça la question.
Alors, nous récitons... Jean, et vous devez connaître ce texte, à Rosh Hashanah, notamment en tout cas dans la tradition ashkenaz, dans le Untane Tokef, la partie centrale qui est très très émouvante et à la fois qui arrive un petit peu vraiment comme une annonce tonitruante au milieu de Untane Tokef, une fois qu'on a rappelé à quel point en ce jour, eh bien, notre vie est fragile et précaire, qu'Akadosh Baruch Hu décide, Dieu décide ce jour-là qui vivra, qui mourra, dans quelles conditions, par toutes sortes d'épidémies, de maladies, et vraiment à Dieu ne plaise, parce que ça évoque malheureusement chez nous des souvenirs très très douloureux et qui ne remontent à pas plus qu'à quelques mois, eh bien, nous rappelons qu'il y a des moyens, bien sûr, de bouleverser tout ça. La tefila, les prières, c'est pour ça que ces prières sont abondantes ce jour-là, la sincérité dont nous pouvons faire preuve au travers de nos prières, la teshuva, la repentance, bien sûr, qui est nécessaire, et je vous renvoie à tout ce qu'en dit Maïmonide, le Rambam, c'est passionnant dans ses Ilchot Teshuva, dans la compilation qu'il a faite sur les lois de la repentance, de la teshuva, quel est ce mécanisme et quelles sont les différentes étapes qui sont indispensables pour qu'un homme puisse être dans une teshuva qui soit une repentance qui soit sincère, qui soit authentique et surtout qui soit complète. La tzedaka, bien sûr, c'est-à-dire ce qu'on traduit faussement par la charité, sont les bonnes actions, cette capacité. Et pourquoi la tzedaka ? Parce que la tzedaka, c'est cette générosité, c'est cette capacité à voir en autrui non pas un ennemi, non pas un concurrent, mais au contraire un partenaire. D'accord. Et ça, c'est important parce que lorsque je fais preuve de tzedaka et lorsque je considère l'autre comme un partenaire et non pas comme un ennemi, eh bien, j'associe mes forces aux siennes. Et donc forcément, eh bien, je m'autorise à être jugé avec lui ou avec même l'ensemble des personnes avec qui j'interagis et non plus à titre individuel.
Alors, la mitzvah principale, dit-on, de Rosh Hashanah est d'écouter les sonneries du shofar. Alors, c'est quoi ce chauffard ? Alors, on a une corde de bélier qu'on sonne et ça y est, c'est la mise
Alors,
à la fête.
Le chauffard, le Rambam aussi, Maïmonide le rappelle, c'est une Xerat HaKatuv, c'est une loi irrationnelle qui est rapportée dans la Torah et je pourrais, Jean, vous renvoyer à votre micro en vous disant « La Torah a demandé à ce que l'on sonne du chauffard, il n'y a pas d'explication, c'est une mitzvah irrationnelle. » Voilà, sauf que, vous l'imaginez bien, nos maîtres se sont un petit peu cassés la tête pour malgré tout trouver au travers de cette sonnerie des allusions ou des raisons qui peuvent être très diverses et variées. Déjà à l'époque des Géonimes, Eh bien, nous avons trouvé chez Rav Saadia Gaon un certain nombre de raisons qui sont rapportées. Le Rambam aussi en a récupéré certaines à son compte. D'accord. Le Rambam évoque notamment la notion de réveil hein, chez le chauffard. C'est-à-dire le chauffard est là pour réveiller les consciences. Les gens qui sont un petit peu endormis, les qui consciences. Se reposent sur leur laurier, eh bien, le chauffard vient les sortir de leur torpeur. Voilà la raison qui est rapportée par le Rambam. Je parlais donc des Géonim et des autres raisons qui sont rapportées. Et on peut rapporter notamment le chauffard de Matan Torah, le chauffard de l'épisode donc du don de la Torah, que l'on cherche en cette fête de Rosh Hashanah à rappeler, parce que c'était un moment justement de grande communion avec Akadosh Baruch Hu, et donc c'est important de rappeler auprès d'Akadosh Baruch Hu ces moments qui ont fait la grandeur du Klal Israël, qui ont été des moments d'affection.
C'est-à-dire que les concerts de chauffard, c'est un moment de communion avec Akadosh Baruch Hu.
Tout à fait. Le moment de chauffard, en tout cas, rappelle les grands moments de communion de l'histoire avec Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi le fait de couronner un roi. Hein, lorsque l'on couronne un roi et lorsqu'on l'intronise, eh bien, on sonne aussi du chauffard. Donc, voilà, beaucoup de raisons qui sont rapportées pour nous rappeler à quoi sert ce chauffard, sachant encore une fois, je le répète, que si l'on s'en tient simplement à ce que nous en dit la Torah, il n'y a pas de raison qui est donnée. C'est une Gzera Takatouv et donc c'est une loi irrationnelle.
Alors, dimanche soir, chez Sfarad, il y aura un véritable céder, un ordre de d'aliments. Et Jashkenaz, on trempe la pomme dans le miel. Est-ce que toutes ces petites choses, c'est pas un peu mystique, c'est pas un peu du...
C'est très mystique, Jean. C'est très mystique.
C'est pas la Torah, la mystique.
C'est très mystique. Preuve en est que si, effectivement, nous avons dans la Gemara déjà, et on rapporte cela auprès, au nom d'Abaye, donc il y a un des grands maîtres aussi de la Gemara, un des grands Amoraïm, si la Gemara donc, nous rappelle que ce seder avait déjà lieu à l'époque de la Gemara, en tout cas, même si on ne consommait pas forcément les aliments, parce qu'il n'est pas forcément... il n'est pas forcément rapporté que ces aliments étaient consommés, mais en tout cas qu'ils étaient placés sur la table, eh bien, les choses se sont un petit peu affinées, elles ont évolué avec le temps, et il a fallu attendre quelques années, même un certain nombre d'années, presque un millénaire, pour voir ce céder vraiment s'installer, commencer un petit peu à se trouver sur toutes les... ces aliments se retrouver sur toutes les tables, hein, de toutes les communautés. Alors, d'accord, ça a bien sûr commencé avec les communautés séfarades, mais beaucoup de communautés ashkénazes, notamment en Europe de l'Est, ont adopté ce minhag. Cela n'a pas été le cas dans la vallée du Rhin, dans nos communautés à nous alsaciennes et de la vallée rhénane. Mais pour autant, eh bien, la pomme dans le miel reste malgré tout aussi un symbole, exactement au même titre que le seder qui est réalisé chez les séfaradim, sauf que chez les séfaradim ou chez certains donc, juifs d'Europe de l'Est, eh bien, ce seder est plus développé. Voilà, on consomme plus d'aliments, mais le fait même de tremper de la pomme dans le miel pourrait, et vous avez raison, Jean, de le souligner, avoir un aspect mystique. Il n'est pas indiqué dans la Torah, il n'est pas indiqué
dans le système, c'est-à-dire on met une pomme, on trempe dans le miel.
Tout à fait, comme si, exactement. Voilà. Alors, je vais simplement rapidement répondre à cette question. C'est ça qui est tout à fait mystique, vous avez raison de le souligner. Et ça mérite une explication. Comment peut-on affirmer, c'est très audacieux, c'est prétentieux, orgueilleux, certains trouveront ça stupide, qu'en consommant certains aliments, alors prenons le mina qui est commun, qui est celui de la pomme dans le miel, qui est commun aux Ashkenazim et aux Sfaradim, comment pourrait-on prétendre que simplement en trempant une pomme dans du miel et en la consommant, eh bien, nous puissions en quelque sorte conjurer le mauvais sort qui pourrait s'abattre sur nous durant l'année ou chasser les mauvais décrets. Non, les mauvais décrets, ça passe pour les chasser par, je l'ai dit, de bonnes résolutions, par une prière qui est sincère, par une approche de repentance également sincère, par un engagement auprès de la communauté, un engagement de chesed, de bonté, et sûrement pas par le fait de manger des grains de grenade ou une pomme dans le miel. Eh bien, bien sûr, Jean, on ne cherche pas à conjurer quoi que ce soit à ce moment-là. On est simplement en train, à la fois de se fixer des objectifs, mais également peut-être de prolonger aussi, de prolonger ce que l'on a cherché à proclamer pendant la prière. Lorsqu'on rentre chez soi, et que peut-être que toute la ferveur de la prière, aussi bien le soir que le midi, eh bien, pourrait un petit peu s'éteindre, parce que dès qu'on sort de la synagogue, forcément, n'étant plus dans l'ambiance de Rosh Hashanah et de la prière.
On fait moti, on fait Birkat Hamazon, ça devrait suffire.
Alors, vous avez raison, on va faire un certain nombre de choses qu'on a l'habitude de faire tous les Shabbatot et tous les Yamim Tovim, qui pourraient nous garder dans l'esprit de la fête, mais qui ne différencieraient pas forcément la journée de Rosh Hashanah d'une autre journée de Shabbat et d'Yom Tov. Or, si on a une obligation de se réjouir à Rosh Hashanah, j'en ai parlé dans la vidéo introductive que j'ai faite au fait de Rosh Hashanah, que cette journée n'est pas une journée austère, pour autant, donc on a une obligation de se réjouir, pour autant, eh bien, on ne doit pas perdre de vue que cette journée est une journée solennelle, c'est une journée durant laquelle nous sommes jugés, et c'est par la prise de conscience permanente de ce qui est en train de se jouer ce jour-là que nous pouvons nous réjouir. Si finalement on oublie que nous sommes Rosh Hashanah, si on pense être un Shabbat comme les autres ou une journée d'Yom Tov comme les autres, eh bien, nous oublions quel est notre objectif, et si nous oublions quel est notre objectif, nous n'avons plus de motif de satisfaction et nous ne pouvons plus accomplir notre devoir. Donc on doit rester connecté à cette fête de Rosh Hashanah, et ces simanim servent aussi, ces différents aliments que nous consommons le soir de Rosh Hashanah servent aussi à cela.
Monsieur Gourabin, on conclut cette émission par votre message, ou en tout cas par un message et vos voeux à la communauté, aux auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg et pas seulement.
Alors Jean, on se souhaite un petit peu toujours la même chose hein, chaque année, à tel point que ces voeux pourraient sembler être des voeux pieux. Pour un rabbin, c'est un peu le comble de faire des vœux pieux. Alors moi, je souhaite que ces vœux ne soient surtout pas des vœux pieux, qu'ils puissent vraiment se concrétiser et se réaliser. Et pour cela, ces vœux ne doivent pas être des paroles uniquement jetées en l'air, mais véritablement des paroles que l'on fait soi. Donc lorsqu'on se souhaite une année de réussite, eh bien c'est à nous de faire en sorte que cette année soit une année de réussite. C'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous de nous investir pour que cette année soit plus belle que la précédente. Bien sûr, il faut s'adapter chaque année avec un certain nombre de paramètres. On a eu beaucoup de surprises ces derniers mois et ces dernières années qui nous ont obligés à nous adapter, mais on a toujours réussi à s'adapter. Donc vraiment, ce que je demande cette année, bien sûr que je souhaite que cette année elle soit belle, bien sûr que je souhaite que cette année soit une année merveilleuse, une année douce, une année pleine de santé. Je souhaite avant tout la santé à chacune et chacun d'entre vous, parce que c'est ce que nous avons de plus précieux. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos foyers, beaucoup de réussite dans l'éducation de vos enfants, mais surtout ce que je vous demande aujourd'hui, peut-être plus que des vœux, c'est une demande, c'est vraiment que chacune et chacun d'entre vous puisse, et je m'inclus dedans, chacune et chacun d'entre nous même, je devrais dire, puisse s'investir de manière un petit peu plus importante l'année prochaine pour la réussite de notre communauté. Ça passe des fois par des petites choses, ça peut être du bénévolat une journée par an, pour d'autres ce sera 2-3 jours par an, mais chaque petit geste contribue à faire évoluer, à faire grandir notre communauté. Shana Tova,
voilà,
en tout cas.
Pour ma part, c'était Shana Tova. Je voulais remercier vous personnellement et tout le corps rabbinique qui, à chaque fois qu'on leur demande de venir à la radio, le font gentiment, et on les remercie. On leur souhaite évidemment une très bonne année à vous et ainsi qu'à vos enfants et à votre femme. Juste avant de terminer, on voulait dire un grand Mazal Tov à notre ami Alexandre Lévy et sa femme Anaïs qui ont eu un petit garçon. Mazal Tov.
Sans oublier les grands-parents.
Et les grands-parents, évidemment, mais ça, je le verrai peut-être, donc je pourrais leur dire en face. En tout cas, merci beaucoup, M. Gourabin. Rendez-vous la semaine prochaine, émission spéciale Kippour. Dans un instant, on se retrouve avec le président du consistoire, M. Maurice Daran, que je retrouve tout de suite après la pause musicale. Et on se retrouve également dimanche avec le Rav Eliashef pour une émission spéciale sur Rosh Hashanah. Merci à Thomas pour la réalisation technique. Merci à vous. Et bonne
et Shana Tova à vous, Jean, aussi.
Merci
très beaucoup. Belle année.
Très belle année. Shabbos Koydesh, Shabbos Koydesh, Yidlach, prepare for Shabbos Koydesh.